sur Chaud Patate,
l'émission du PAT,
le projet alimentaire territorial du Sud Lozère,
l'émission qui met en lumière
les acteurs et les actrices
de l'agriculture et de l'alimentation du territoire
sur Radio Bartas.
107 FM.
À table.
Retrouvez-nous une semaine sur deux, le mardi à 15h et le dimanche à 11h30. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 10e épisode de Chaud Patate, l'émission du PAT, le projet alimentaire de territoire du Sud Lozère. Aujourd'hui, c'est Louise Denisot, co-animatrice du projet alimentaire de territoire au PETR, qui vous parle. Donc, l'objectif du PAT, c'est de rassembler tous les acteurs et les actrices de la chaîne alimentaire, depuis l'amont jusqu'à l'aval. Donc, toutes les personnes qui s'intéressent à l'agriculture, à l'alimentation, qui veulent s'impliquer sur ces questions-là, autant pour faire des ateliers cuisine que pour cultiver autrement notre territoire, pour développer des circuits courts de proximité ou favoriser l'autoproduction. Lors de l'émission précédente, Floriane, la co-animatrice du projet alimentaire de territoire, vous a parlé de la transmission des fermes avec des structures partenaires, l'ADAR et le Parc national des Cévennes, ainsi qu'un éleveur qui transmet actuellement sa ferme. Au programme de l'émission d'aujourd'hui, nous allons vous parler du programme Trail et Terrasse avec Louisiane Panteljouve. Bonjour.
Bonjour Louise.
Qui est chargée, donc Louisiane est chargée de mission agriculture et territoire au syndicat des Hautes-Vallées Cévenoles et en charge du projet Trail et Terrasse. Et nous sommes également avec Benoît Delaporte. Bonjour Benoît.
Bonjour Louise.
Qui est agriculteur à Saint-Germain-de-Calberte et qui pilote un site expérimental du projet Trail et Terrasse au Bancel des Calcaires. En fin d'émission, on écoutera la chronique Cuisine et Santé qui revient un mois sur deux. Nous serons avec Caroline et Aurélie qui nous parleront des minéraux, des antioxydants et des vitamines. Et je remercie Léo à la technique. Donc avant de commencer à parler plus en détail du projet Trail et Terrasse, Louisiane, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le syndicat des Hautes-Vallées Cévenoles ?
Oui, alors le syndicat des Hautes-Vallées Cévenoles, c'est un syndicat intercommunal, c'est-à-dire que c'est une collectivité publique à laquelle adhèrent des communes sur le versant méditerranéen du Mont-Lozère et du Bougès, donc les vallées qui vont de la vallée française à la vallée du Luège, sur le nord du Gard, le sud de la Lozère. Voilà, on a des communes qui peuvent adhérer, si elles le souhaitent, au syndicat des Hautes-Vallées Cévenoles, qui en échange les accompagne à mener des projets dans la démarche homme et biosphère de l'UNESCO, c'est-à-dire des projets qui vont permettre de concilier développement humain et préservation de l'environnement. Donc ça peut être des projets forestiers, agricoles, de transition énergétique. Et on a aussi une grosse activité d'éducation à l'environnement avec un centre d'interprétation des vallées Cévenoles qui se trouve à Sandras, au nord-ouest d'Alès, où sont nos bureaux. Et vous avez une exposition permanente et des animations qui permettent aux habitants du territoire d'être sensibilisés à la préservation de l'environnement. Voilà.
Donc un territoire qui est à cheval entre la Lozère et le Gard.
Et
qui se chevauche du coup en partie avec le territoire du PETR. Et donc nous sommes partenaires sur un certain nombre d'actions, dont les actions qu'on mène autour de l'alimentation et de l'agriculture. Et du coup, pour en revenir un peu au projet qui nous rejoint aujourd'hui, qui nous réunit aujourd'hui, donc le projet Trail et Terrasse, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les origines de ce projet ? Qu'est-ce qui vous a amené en fait à le piloter ?
Oui, alors les origines sont multiples. Souvent, j'ai l'habitude de le présenter selon trois enjeux, parce que du coup, comme on est dans cette démarche homme et biosphère de l'UNESCO, on essaie d'avoir une vision globale dans nos projets. Donc les projets agricoles touchent à plein d'enjeux différents, et sur le projet Trail et Terrasse, il y en a trois. Il y a la préservation de l'activité agricole en terrasse en Cévennes, face au changement climatique. Il y a la préservation des terres agricoles en terrasse, donc avec des murets en pierre sèche qui permettent de retenir le sol des terrasses. Et il y a la valorisation des cépages patrimoniaux, qu'on appelle aussi cépages interdits. Donc l'origine, elle naît de différents constats, et notamment je vous parlais des activités de sensibilisation du syndicat. Nous, l'été, on projette régulièrement des documentaires dans les communes adhérentes du syndicat, et on a projeté une dizaine de fois, jusqu'à l'été 2022, le documentaire Vitis Prohibita de Stéphane Ballet, qui a été produit par Fruits Oubliés Réseau, et qui explique un peu l'histoire des cépages interdits en France et dans le monde. Et à chaque fois, à l'issue des projections, on essaye d'avoir un petit débat. Et les habitants, en général, se remémorer le vin du grand-père, de la grand-mère, le clinton, comme il l'appelle, donc le vin interdit qui était produit en Cévennes et qui était du coup fait à partir de vignes hybrides américaines et qui sont résistantes à différentes maladies et donc qui ne nécessitent pas d'être traitées et qui permettent de faire du vin sans aucun traitement. Et du coup, ces cépages-là, on pense qu'ils sont intéressants d'un point de vue d'une production agroécologique parce qu'on n'a pas besoin de les traiter pour pouvoir les cultiver. Alors on n'est pas obligé d'en faire du vin, on peut les manger comme raisin de table ou faire du jus de raisin bien sûr. Et du coup, ce qui était souvent pratiqué autrefois, c'est comme les terres agricoles étaient assez rares et qu'il fallait se démener pour les avoir puisqu'il fallait bâtir des terrasses pour avoir du sol plat qui retienne la terre, etc. On cultivait le raisin en treille, donc en pergola végétale, on le faisait monter en hauteur, et sous ces treilles, on cultivait par exemple des pommes de terre pour optimiser l'espace. Et aujourd'hui, face au changement climatique, on voit que les productions maraîchères sont difficiles à conduire l'été en plein soleil, nécessitent beaucoup d'irrigation, et parfois il y a des arrêtés qui ne permettent pas d'irriguer, ou alors simplement il n'y a plus d'eau. Et du coup, on peut proposer une nouvelle forme d'agriculture, on s'inspire de ce qui était fait autrefois en cultivant à l'ombre des treilles des productions dans une idée d'agroforesterie, donc d'associer des cultures hautes et des cultures basses en Cévennes.
Donc votre projet, il vient à la fois du constat de ce qui se faisait avant et également du changement climatique et de la perte des nombreuses terrasses. On mettra sur le site des photos, vous pourrez voir un petit peu l'évolution des paysages en Cévennes qui est assez flagrant. Est-ce qu'on a des données par rapport un petit peu au nombre de terrasses, ou en tout cas ce qui se faisait avant par rapport à aujourd'hui?
Moi, j'ai pas de données numériques sur vraiment le nombre de terrasses effondrées en Cévennes. Par contre, on a sur des territoires très localisés, on y a pu avoir des études où en fait, on voit que toutes les terrasses sont effondrées. Ce qui peut être intéressant, c'est d'aller sur le site de l'IGN et regarder les cartographies des années 50 où il y avait beaucoup moins d'arbres et on voit vraiment bien les terrasses qui étaient bâties. Ou bien parfois sur des communes on a des anciennes photos du début du siècle précédent où on voit vraiment un territoire avec complètement bâti en terrasse et on voit aussi de nombreuses treilles dans les villages, chose qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui, mais on continue de voir des vignes qui persistent ou des treilles adossées aux bancelles. Par contre, des données, vu que le projet n'est pas uniquement sur les terrasses, sur le changement climatique, il y a une étude qui a été faite par qui a été commandé par le département du Gard, qui dit que les Cévennes sont le territoire qui se réchauffe le plus dans le département. Et donc, ils estiment à plus 2,1 degrés le réchauffement d'ici 2050. Et du coup, on est sur un territoire très vulnérable face au changement climatique. Il va falloir s'adapter à ça. Et les pratiques agricoles peuvent être un levier sont un levier vraiment pour s'adapter au changement climatique. Et il est nécessaire d'avoir des pratiques plus agroécologiques pour pouvoir continuer à produire. Donc, par exemple, on a un vigneron, alors qui n'est pas sur le territoire du syndicat, mais Louis-Julien à Ribotte-les-Tavernes, qui milite pour les sols vivants. Lui, il a transformé son exploitation viticole petit à petit en réduisant le travail du sol. Et chez lui, il y a eu des études qui montrent qu'en cas d'épisode cévenol, son sol peut absorber plus de 250 mm d'eau, ce qui est énorme, sans que le sol déverse son eau et inonde les villages, etc., et qui perdent du sol, alors que dans des parcelles voisines, dès qu'il pleut 10 mm, il y a de la boue partout et le sol s'en va. Donc, en adaptant ces pratiques, on peut avoir vraiment des effets positifs. Et on travaille aussi sur le projet avec l'IGP Cévennes, donc c'est l'appellation viticole des Cévennes. Et eux, ils promeuvent l'agriculture biologique, etc. Et ils ont un groupement de viticulteurs qui travaillent notamment sur les pollinisateurs, mais pas que, sur l'agroforesterie, etc. Et ils ont comparé des parcelles en été enherbées et des parcelles avec un sol nu. Et ils trouvent un écart de 12 degrés sur le sol entre une parcelle où il y a de l'herbe, qui est plus fraîche de 12 degrés, et une parcelle au sol nu, qui du coup, vraiment, en fait, il faut imaginer que les rayons du soleil viennent cramer en fait tout ce qui peut essayer de vivre sur le sol qui est nu face au soleil.
D'où l'importance des pratiques agroécologiques pour contrer le changement climatique, mais aussi pour préserver la biodiversité.
Oui.
Le PETER est également engagé dans une démarche climat. Donc c'est ma collègue Delphine Bénard qui est en charge de cette démarche, en cours de réalisation, avec un diagnostic qui est en cours de réalisation sur comment le changement climatique impacte notre territoire. Donc pas que sur l'agriculture, hein, de manière générale, et quelles stratégies nous pouvons adopter pour s'adapter. Et donc, pour revenir un peu plus, je vais un petit peu découper le projet Treille et Terrasse. Par rapport aux terrasses, du coup, il y a un projet de réhabilitation, de remonter certains murs. Est-ce que tu peux m'en parler? Avec quel partenaire vous faites ces actions?
Oui, du coup, on a proposé, donc on travaille là-dessus avec les ABPS, donc les artisans bâtisseurs en pierre sèche, et l'école de l'Espinasse, qui est à Ventalon en Cévennes, qui propose des semaines de sensibilisation au remontage de murs en pierre sèche. On l'avait fait sur le site des Calcaires en 2023. Pour 12 agriculteurs et agricultrices ou porteurs de projets qui ont eux-mêmes des terres en terrasse. Et on va le reproposer au mois de février à Saint-Michel-de-Dèze, à nouveau pour 12 agriculteurs et agricultrices. Et l'idée, donc, c'est d'acquérir les bases pour remonter les murs en pierre sèche de son exploitation. Alors, évidemment, c'est un énorme travail. Et du coup, l'enjeu, ça ne va pas être de rebâtir toutes les terrasses des Cévennes. Ça ne serait pas compatible avec nos modes de vie aujourd'hui. Mais le foncier étant rare et précieux, on a des bonnes terres agricoles en terrasse. Et si on arrive à avoir une production rentable sur ces terrasses, ça peut peut-être permettre de maintenir ces terrasses en place. On a l'exemple de l'appellation de l'Oignon Doux des Cévennes qui est intéressante, où ils ont mis dans leur cahier des charges que les terres soient en terrasse, et ils ont réussi à valoriser leur production suffisamment pour permettre l'entretien des terrasses. Par contre, on peut tirer des conséquences de la monoculture de l'Oignon Doux des Cévennes qui pose problème, puisque aujourd'hui, en cas de... justement, s'il manque d'eau, c'est une culture qui nécessite d'être très irriguée. Donc, parfois, il y a des arrêtés qui interdisent l'irrigation et du coup, les rendements chutent drastiquement. Et puis, c'est aussi une culture conduite en monoculture sur des petites terrasses. Et donc, par exemple, face à la cicadelle, qui est un papillon qui vient... détruire les cultures, sur certaines années, ils ont des grosses chutes de rendement. Et du coup, il faut... c'est une production qui est intéressante, mais il faut absolument que les agriculteurs ils produisent différentes productions et pas uniquement de l'oignon doux, sinon leur revenu chute. Donc l'idée du projet Treille et Terrasse, c'est pas uniquement faire de la vigne, c'est de faire du maraîchage et puis avoir aussi de l'élevage, voilà.
C'est donc de combiner plusieurs cultures entre elles et de profiter des apports et des bénéfices de l'une et de l'autre.
Oui.
Et tu nous parlais de l'eau aussi.
Oui.
Là, vous travaillez avec d'autres partenaires sur ce sujet et vous menez vraiment des études de recherche sur certaines parcelles.
Oui. Alors en fait, concrètement dans le projet Treille et Terrasse, il y a 6 sites expérimentaux entre le Gard et la Lozère. Donc il y a le site des Calcaires à Saint-Germain-de-Calberte, mais il y a aussi d'autres sites sur le territoire du Parc national des Cévennes. Ça va au-delà du territoire du syndicat des Hautes-Vallées-Cévenoles. Et donc on travaille avec des agriculteurs et des agricultrices partenaires qui sont en projet d'installation ou déjà installés en projet de diversification, qui sont maraîchers, vignerons, en général qui ont plusieurs productions, un peu d'élevage aussi, et qui soit expérimentaient déjà la culture sous treille, soit souhaitaient le faire. Donc il y a certains qui ont des retours d'expérience déjà intéressants sur la production sous treille, par exemple, qui vont dire effectivement les pommes de terre ça marche très bien, par contre les aubergines ça marche pas du tout, il faut absolument de la lumière, donc c'est pas non plus la panacée, il faut voir justement qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui est tenable pour le travail de l'agriculteur ou de l'agricultrice, combien ça coûte, combien de temps ça prend, etc. Et du coup on a commencé à aménager donc ces 6 sites expérimentaux et à y placer des différents outils de mesure pour mesurer l'humidité du sol, l'humidité de l'air, l'apport d'irrigation, etc. Et avec ça, sur ce projet-là, on travaille avec le bureau d'études Agrouf, qui est un bureau d'études spécialisé en agroforesterie, qui est basé à Boissé-Gaujac, donc dans le Gard, et qui travaille depuis très longtemps sur ces sujets, et qui a notamment une station expérimentale à côté d'Alès, à Vézénobre, où ils ont déjà expérimenté le maraîchage sous différentes conduites d'arbres. Donc sous du maraîchage, ils l'ont fait par exemple sur la tomate, où ils ont comparé la production de la tomate en plein soleil, la production de la tomate sous des arbres pas du tout taillés, sous des arbres plus élagués, etc., pour voir qu'est-ce qui était le plus efficace. Et ils ont montré que le mieux, c'était des arbres très élagués. Parce qu'en plein soleil, concrètement, en été, les cultures brûlent. Et s'il y a trop d'ombre, on ne produit pas suffisamment, voilà, en tout cas sur la tomate. Ils ont aussi étudié des paramètres autour de la biodiversité, etc. Mais là, on ne va pas se concentrer là-dessus, sur le projet Treillis Terrasses. Et du coup, l'idée, c'est de mener ces expérimentations pendant plusieurs années. Donc, d'aider à l'installation et la diversification des agriculteurs et des agricultrices en installant des treillis et du coup, et des productions maraîchères sur les parcelles expérimentales. Et sur plusieurs années, prendre des mesures pour voir. Alors, peut-être qu'une année comme celle qu'on vient d'avoir, qui était très pluvieuse, les treillis, ce n'était pas forcément très favorable. Par contre, si une année, on a plus de canicules, ça pourra l'être davantage.
Et oui, c'est aussi de se dire que certaines données ne seront pas forcément valables chaque année.
Oui.
Et que, voilà.
Oui, et du coup, en expérimentation agronomique, on a toujours besoin de mener sur plusieurs années les études. Et on a aussi travaillé avec Pierre-Alain Héral, qui est hydrologue au CNRS, sur le site des calcaires, où là, il y a eu un stage qui a été conduit pour évaluer la faisabilité de réimplanter de l'agriculture sur ce site. Alors, il y a encore des jardins, mais l'idée, c'est d'avoir un projet davantage professionnel, plus important. Et en fait, est-ce qu'il y a suffisamment d'eau pour le mener? À quelles conditions? Quelle culture il faudrait? Si on met que du kiwi, par exemple, c'est une culture qui demande beaucoup d'eau, donc ça va peut-être pas être possible. Par contre, si on met des productions un peu moins gourmandes, ça le sera.
Donc ça, Benoît va nous en parler juste après. Par rapport au projet Treillis et Terrasses, donc tu nous as parlé notamment des terrasses, des recherches par rapport à l'irrigation et les treillis. Alors comment est-ce que vous les montez et quel lien vous faites aussi peut-être avec d'autres filières en Cévennes?
Alors les treillis, c'est bien si elles sont châtaigniers, parce qu'on a plein de châtaigniers sur le territoire, et on a des bouscasses, donc des rejets de châtaigniers tout droit, dont on ne sait pas forcément quoi faire, mais on peut en faire des treillis. Voilà, c'était comme ça que c'était fait autrement, les treillis étaient faites en châtaignier. On peut les faire aussi en acacia, mais il faut des arbres plutôt solides, imputrescibles. On ne s'interdit pas non plus, selon les besoins des agriculteurs, de le faire autrement. Sur une parcelle, on a fait par exemple une treille en acacia et en métal, et ça a permis de faire une mini-formation, une initiation à la soudure métal, ce qui peut être très pratique sur une exploitation agricole. Parce que le projet, ce n'est pas uniquement de l'expérimentation, c'est aussi de la mise en réseau, de l'organisation de journées collectives. C'est aussi ce qui est... Moi, quand j'ai démarré le projet, pris la suite du projet, je suis allée voir les différents agriculteurs et agricultrices qui étaient intéressés pour leur demander un peu quels étaient leurs besoins, en fait. Et souvent, c'est de se retrouver, d'échanger des connaissances, des compétences, peut-être d'organiser des chantiers collectifs pour s'entraider, parce qu'on est souvent un peu seul sur son exploitation et ça fait du bien de sortir la tête de l'eau et de voir ce qui se fait ailleurs.
Donc ça, il y en a eu de nombreuses, des journées de ce type, et il y en aura une bientôt le 21 mars.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, l'instant pub?
Oui, alors je pourrais même faire plus de pub, parce qu'en fait là, avec le syndicat, on a une programmation saisonnière, thématique, et la saison hiver est consacrée à l'agriculture et à l'alimentation. Et du coup, dans ce cadre, on va faire plusieurs événements plusieurs animations en tout cas autour du programme Treillis et Terrasses. Donc effectivement, le 21 mars, l'après-midi, il y aura une initiation taille de la vigne en treillis sur un domaine à Molaison. Donc c'est assez tard, mais ce domaine taille tardivement, donc ça intervient à la fin du mois de mars, avec différents vignerons qui viendront échanger un peu sur leurs pratiques et qui se posent des questions. Donc c'est ouvert à tous, hein, pas uniquement aux vignerons, vigneronnes. Et ça se poursuivra à Saint-Étienne-Vallée-Française le soir, avec une conférence, débat, table ronde, avec des vignerons qui viendront parler un peu de vignes, d'agroécologie et de quel avenir à la vigne, notamment du point de vue des cépages hybrides. Donc les cépages interdits sont des cépages hybrides, c'est-à-dire des vignes croisées entre vignes américaines et vignes européennes.
Tu peux nous en donner quelques-uns, des cépages
Oui, bah alors les cépages interdits, c'est le Clinton, l'Isabelle, le Noah, le Jacquet, l'Herbemont, l'Othello. Et après, ça c'est ce qu'on appelle les cépages interdits. Alors on peut les planter, on peut les cultiver, on peut même les vinifier. Par contre, on ne peut pas commercialiser le vin légalement. Et après, il y a les cépages.
Et pourquoi ? Est-ce qu'on a... Pour faire un petit retour sur l'histoire.
Oui. Ces cépages, ils ont été interdits dans les années 30. Alors, il y a différentes raisons évoquées, officiellement notamment parce qu'ils rendaient fous. Enfin, on disait qu'ils rendaient fous, parce que quand on les vinifie, il y avait du méthanol qui est pas... qui s'élimine pas comme l'éthanol dans l'organisme. Des études depuis ont montré qu'il n'y avait pas plus de méthanol dans ces cépages que dans d'autres. Et... en réalité, c'est plutôt parce qu'il y avait une surproduction de vin en France et que du coup, on a tapé sur certains cépages, notamment ceux-là, qui avaient l'avantage d'être résistants aux maladies, aux phylloxéra, donc on n'avait pas besoin de les greffer. En tout cas, sur schiste, on n'a pas besoin de les greffer parce qu'ils se comportent très bien. Donc du coup, ils étaient très massivement plantés en Cévennes, et notamment pour faire du vin domestique pour la maison. Et donc, ils faisaient concurrence au vin qui était commercialisé, qui était planté en France, en Algérie, etc. Et puis, c'est aussi des cépages qui sont résistants aux maladies, donc au mildiou et à l'oïdium. Donc, on n'a pas besoin de les traiter. Et donc, c'est quand même super intéressant. Et notamment, si on veut faire du maraîchage dessous, ça ne va pas contaminer les cultures dessous. Donc, voilà, il y a ces cépages interdits. Et après, il y a les cépages non autorisés, qui ne sont pas inscrits au catalogue. Donc, qu'on ne peut pas non plus commercialiser en vin. Par exemple, le baco, qui est assez présent ici. On a créé un manifeste des vignes en résistance avec l'association Fruits Oubliés Réseau et donc l'appellation des Cévennes, IGP Cévennes, que je vous invite à signer. Si vous tapez vignes en résistance sur Internet, vous le trouverez. Mais on va en parler en plus en détail le 21 mars. Parce qu'aujourd'hui, il y a des vignerons qui estiment que... la profession est trop bloquée sur certains cépages, sur les catalogues, etc. Et d'un point de vue agroécologique, la diversité biologique des cépages, c'est intéressant de ne pas avoir uniquement une parcelle plantée en Syrah ou en Grenache ou en Merlot, mais avoir une diversité de variétés qui vont avoir différents avantages, plus résistantes à certaines à la sécheresse, d'autres aux maladies, etc. Et en cas de gel, y a certains cépages qui se comporteront mieux, en cas de canicule aussi, en cas d'année humide avec du mildiou, voilà. Et du coup, il y a différents vignerons qui vont venir témoigner de ça, et il y aura une dégustation de vins issus d'hybrides, donc les anciens hybrides dont je vous parlais, et puis aussi les nouveaux qui sont développés par les instituts de recherche et qui peuvent aussi avoir des avantages. Et donc il y a des exploitations en Cévennes qui les utilisent et qui ça leur permet de faire du vin nature, non traité, et donc qui en sont très contents. Voilà, et donc l'IGP Cévennes a aussi travaillé avec l'IGP donc autour du projet Treille et Terrasse, et eux, donc, ils sont plus branchés forcément vignes et vins. Et ils ont commencé des micro-vinifications pour en fait convaincre la profession, qui est assez convaincue en Cévennes, mais pas forcément ailleurs, la profession viticole, est assez réfractaire à ces cépages-là, parce qu'il faut leur prouver qu'en fait on peut faire du bon vin avec ces cépages. Alors, certains ont un goût très prononcé de fruits des bois, donc ça plaît à certains consommateurs et moins à d'autres. Moi, par exemple, je trouve ça très, très bon. Mmh. On peut aussi en faire des vins pétillants, des jus de raisin, c'est très fruité, il y a un côté fraise des bois intéressant. Et puis d'autres n'ont pas ce goût-là, et en fait, il faut savoir bien les vinifier pour prouver qu'on peut faire des bons produits à partir de ça. Et donc l'IGP travaille là-dessus. Donc là, on a des financements de la Fondation Carasso sur ces actions-là. Et puis sur le projet Treille et Terrasse en général, on est financé par l'Agence de l'eau, aussi le Parc National des Cévennes.
Ok. Voilà. Et du coup, il y a une victoire de l'IGP Cévennes il y a un an maintenant, un peu plus, avec l'extension de l'aire géographique qui maintenant couvre également jusqu'aux gorges du Tarn, où il y a actuellement deux exploitations vigneronnes. Et j'en profite pour parler d'un projet que porte le PETR aussi, d'animation foncière avec l'association foncière agricole des coteaux des gorges du Tarn, donc, où nous sommes actuellement en train de contacter des propriétaires qui auraient des parcelles et qui seraient intéressés pour les mettre à disposition pour le développement de production végétale dans les gorges du Tarn. Donc n'hésitez pas, si vous êtes propriétaire dans ce secteur et que vous avez envie de voir se développer des productions agricoles et de retrouver les paysages d'antan, à nous contacter. Merci Louisiane, je vais un peu laisser la parole aussi maintenant à Benoît. N'hésite pas si tu as des ajouts à un moment que tu veux... nous refaire, Louisiane.
Oui.
Et du coup, Benoît, est-ce que, avant de nous parler vraiment de ton activité à toi, est-ce que tu peux nous présenter le site et le projet des calcaires ? Donc, on a parlé de ce site qui est un site remarquable à Saint-Germain-de-Calberte et qui est un site du coup pilote pour le projet Treillis et Terrasses. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ?
Oui, je peux, oui, bien sûr. Alors effectivement, le site des calcaires à Saint-Germain-de-Calberte est vraiment un reflet et un étendard de ce passif agricole des Cévennes. On a à la sortie du village un site qui est assez bien conservé, qui est un peu en arc de cercle. Ça donne un lieu assez fabuleux. Donc on a environ 6 hectares qui ont été identifiés sur ce site. Le parc national des Cévennes avait déjà, il y a une vingtaine d'années, exprimé le souhait de réhabiliter ce site en disant qu'il était emblématique de ce passif agricole. Et donc, il y avait en 98 un chemin de découverte qui avait été créé par le parc national. Et depuis, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Et du coup, en 2022, il y a une association qui s'est mobilisée justement pour éviter que ce patrimoine tombe en désuétude et finisse par totalement s'ébouler, comme pouvait l'énoncer Louisiane tout à l'heure. L'association s'est constituée en 2022. Il y a eu un gros travail d'identification des propriétaires, puisque les Cévennes, comme partout, c'est très morcelé au niveau de la propriété. Mmh. Donc il y a eu...
À peu près 36 propriétaires là sur les...
C'est ça, ouais. 38 propriétaires identifiés sur les calcaires, ce qui constitue une soixantaine de parcelles. L'intégralité presque des propriétaires a pu être contactée. Il y a même des conventions de délégation de maîtrise d'ouvrage qui ont été passées justement pour pouvoir intervenir sur le site. Donc du coup, l'objectif de l'association, c'est de remettre en activité ce lieu et de continuer les activités qui peuvent y avoir, mais en installer des nouvelles. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a encore des jardins qui sont en activité sur le site, bon, à destination familiale, on va dire. Il n'y a pas du tout d'activité commerciale. C'est plutôt moi qui vais porter cela par la suite. Voilà.
Moi, je vous invite vraiment à aller vous balader sur ce site. Il y a un chemin communal qui passe et c'est vraiment magnifique. On mettra des photos sur le site de Radio Batas et sur la page Facebook du PETR que vous pourrez voir. Et aussi l'évolution au fil du temps de ce paysage. Sur ce projet, le PETR avec le GAL a sélectionné un projet leader. Donc, ce sont des fonds européens que l'on gère au niveau du PETR. Et donc la mairie est engagée à côté de l'association pour maintenir ces jardins. Et donc ce projet leader va permettre de soutenir financièrement pour l'entretien du chemin, des béales et des murs de sous-têtement. Et donc toi, ton projet à toi, Benoît, tu peux peut-être nous en parler d'abord dans sa globalité, ton projet d'installation dans les Cévennes, et puis plus particulièrement après sur les calcaires et en lien avec le projet Treillis et Terrasses.
Ouais. Alors moi, je suis en reconversion professionnelle actuellement, donc je suis arrivé à Saint-Germain-de-Calberte il y a maintenant un an et demi, et dans le but justement de m'installer en tant que maraîcher. En m'installant sur Saint-Germain, j'ai rencontré plusieurs personnes, dont Anne Dubrocard, qui est la présidente de l'association, qui met une grosse dynamique sur ce travail-là. Donc mon projet, c'est de faire du maraîchage dans les Cévennes, d'avoir une diversification et une spécialisation sur les épices. Donc tout ce qui va être paprika, graines aromatiques, gingembre, curcuma, citronnelle. Donc ça, c'est des choses que je projette de faire. Ça va mettre du temps à se mettre en place, mais en tout cas, c'est l'idée. Donc du maraîchage principalement et une diversification, comme je l'évoquais, mais aussi de la châtaigne. Parce que, comme Louisiane l'a dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, sinon ça ne marche pas. Voilà. Mon projet, c'est vraiment l'installation maraîchère. J'ai pour objectif d'acquérir une ferme, donc une transmission d'une exploitante qui veut partir à la retraite. Ça prend un peu de temps, voilà, il y a des complexités à résoudre. Et du coup, j'ai rencontré Anne Dubrocard qui m'a évoqué son projet et son ambition sur les calcaires et aussi la volonté d'installer un projet professionnel sur le site. Et donc, moi, ça m'a vraiment intéressé puisque j'adore l'histoire, l'architecture, etc. Donc, c'était vraiment une aubaine. Et donc, je me suis inscrit dans la dynamique. Et pour moi, c'était aussi une opportunité d'avoir une première activité, puisque la dynamique de Anne était d'aller chercher des financements un peu partout. Et elle a été toquée à la porte de la région pour avoir un budget participatif pour monter un projet de treille et terrasse avec Louisiane pour faire de la production de raisins de table et ainsi alimenter la restauration collective.
Ce qui fait le lien avec d'autres projets que l'on porte également.
Voilà.
Et très bonne initiative, vu qu'il n'y a pas assez de fruits en général hein, dans les Cévennes, et notamment de raisins. Et donc, vous en êtes où ? Comment vous y êtes pris ? Parce que là, il y avait quand même un sacré chantier quand on voit les friches de certaines terrasses.
Ouais.
T'as remis ça en état tout seul ?
Non. Voilà. Ouais, ok. Alors moi, je gère une toute petite partie du site. Donc, comme je disais, les calcaires, c'est 6 hectares environ. Moi, j'ai récupéré des parcelles à titre gratuit qui doivent faire 1000 mètres carrés, 1500 mètres carrés. C'est vraiment pas énorme. Donc moi, sur cette partie-là, on a accueilli un chantier international en septembre avec l'association Rêve, qui est située au pont de Montvert. Voilà. Donc, pendant deux semaines, on a défriché mes parcelles et on a reconstruit aussi un mur en pierre sèche avec un formateur de la PBS. Donc ça concerne mes parcelles. Et sur le reste du site, l'association a réussi à aller décrocher des financements, donc Leader avec vous, mais aussi auprès de la Fondation du Patrimoine, du département, des dons, etc. Et ce capital a permis de projeter différentes tranches d'intervention sur le site. Et là, il y en a une première qui a commencé en octobre, où il y a toute une équipe d'abattage qui est intervenue pour venir défricher le site, puisqu'on avait quand même des arbres de 20 mètres qui avaient poussé là. Puisque, en fait, je ne l'ai pas dit, mais c'est un site qui date du 12e siècle, en même temps que le village. Il a été en exploitation jusqu'à la fin du 19e, et après, il s'est enfriché naturellement. Donc, la première étape, c'était de venir enlever ces arbres qui pouvaient continuer la dégradation du site et surtout limiter le développement de projets agricoles comme le mien, mais aussi pour des jardins particuliers. Voilà. Donc le travail est en cours, l'abattage a bien commencé, mais il y a encore pas mal de boulot, et plus on met à nu le site, et plus on se rend compte qu'il y a de plus en plus de boulot. Donc ça va prendre du temps, de l'argent et de l'énergie, mais en tout cas la dynamique est lancée, et c'est incroyable de redécouvrir ce lieu
ouais.
Qui était endormi sous cette nature prolifique.
Et la magie du lieu aussi, c'est les béales et toute l'eau. Voilà, on parlait du manque d'eau dans certains sites et à voir après selon les cultures mises en place, etc. Mais...
Ouais, effectivement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans la présentation du site, mais ce qui effectivement donne un plus,
un cachet.
Voilà, à ce site, c'est qu'il est traversé par deux ruisseaux. Enfin, ça change beaucoup de choses au niveau esthétique, mais aussi au niveau des conditions de mise en culture, puisque l'humidité, la fraîcheur et l'accès à l'eau est facilité sur ce site. Ils sont toujours en eau, il n'y a jamais eu... ils ne sont jamais taris. En tout cas, c'est plutôt positif. Effectivement, Louisiane a évoqué le travail de Lucas Schwartz sur le site des calcaires pour justement confronter la réalité hydraulique du site avec la réglementation en place, en vigueur en France, sur la gestion de l'eau et une pratique agricole. Donc, on se rend compte que il y a des difficultés sur la réglementation aussi de l'eau, de l'usage de l'eau en fonction des territoires et de leurs particularités, puisqu'il y a une homogénéité de la règle au niveau national, mais elle s'applique pas spécifiquement au territoire. Donc c'est un peu compliqué de gérer ça. En tout cas, on a espoir de se dire qu'il est possible de remettre en culture une bonne partie de ces bancelles avec des pratiques agroécologiques, avec les treilles, etc. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. L'avenir nous le dira.
Oui. Et dernière question, Benoît, où est-ce qu'on pourra trouver tes produits ? C'est ça aussi le PAT, c'est savoir où est-ce qu'on peut consommer les produits faits par nos agriculteurs et agricultrices.
Ouais. Alors, les productions issues des treilles, donc le raisin, va être fléché vers la restauration collective, du moins c'est la priorité. Mais ensuite, mes produits se trouveront principalement à Saint-Germain-de-Calbert, puisque nous avons un village assez dynamique et touristique. J'ai déjà, puisque j'ai fait une formation, un BPRE à distance, donc j'étais en stage et j'ai déjà commercialisé des légumes sur la commune et ça a marché plutôt très très bien, puisqu'on a 3 restaurants sur la commune, on a 2 épiceries qui ont joué le jeu avec moi de vendre mes légumes. Et puis j'ai fait des paniers aux particuliers depuis le printemps. Et ensuite, on a un marché estival qui commence en juin. Mmh. Voilà. Donc là, principalement, mes produits seront présents sur la commune. Après, voilà, il y aura d'autres débouchés forcément
à venir.
À venir.
Ça marche. Eh ben, merci beaucoup Benoît, merci Louisiane. Et voilà, je vous remercie, bonne journée.
Bonne journée.
Merci.
Chaud patate
sur Radio Bartas,
107 FM.
Vient maintenant la chronique cuisine et santé. Donc, je suis avec Caroline Gagnère, bonjour.
Bonjour Louise.
Donc, Caroline qui est naturopathe à Mende et qui nous accompagne pour les chroniques cuisine et santé. Je suis également avec Aurélie Cordier qui est de l'association Une Simple Fenêtre. Bonjour Aurélie.
Bonjour à vous.
Et avec Valentin Tournaire qui est cuisinier à l'Institut Agro de Florac et qui a aussi été cuisinier dans de nombreux restaurants semi-gastronomiques. Bonjour Valentin.
Bonjour Louise.
Donc aujourd'hui, on va vous parler des minéraux, des vitamines et des phytonutriments. Donc je laisse la parole à Caroline.
Hey, merci Louise. Pourquoi est-ce qu'on commence par cette rubrique d'ailleurs? Je vais commencer par expliquer ça parce que quand on parle nutrition, souvent on pense glucides, protéines et lipides. Donc les 3 grandes familles de nutriments qui vont constituer l'organisme. Et souvent, on a tendance à s'arrêter là. Et c'est bien dommage parce qu'il y a plein de petites molécules dans l'alimentation et dans notre corps qui sont hyper utiles et dont on serait bien incapable de se passer et qu'il faut absolument apporter par l'alimentation. Donc je vais citer dans ces micronutriments, c'est une grande famille un petit peu fourre-tout, on va parler des minéraux, donc comme tu disais Louise, des vitamines et des phytonutriments. Je vais commencer par les minéraux. C'est la famille la plus simple à comprendre parce qu'on entend quand même pas mal parler, le calcium, le magnésium, le zinc, le potassium, le phosphore, enfin voilà, et le fer aussi, qui sont des minéraux hyper importants et dont on connaît quand même la présence globalement, parce qu'on se fait souvent dans une analyse de sang, on a déjà entendu parler du fer, évidemment. Donc ces minéraux, ils ont de très très nombreux rôles. Je vais vous en donner quelques-uns, mais je ne vais pas tous les citer parce que c'est très, très vaste. Il y en a quand même, je pense, plus d'une cinquantaine au niveau de l'organisme. Et pour chacun, des centaines de rôles. Donc, on ne va pas tous les détailler. Mais globalement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en dehors de certains rôles spécifiques à chaque minéral, ils ont quand même tous à peu près la propriété de favoriser le fonctionnement des réactions chimiques de l'organisme. Donc ça veut dire que si on veut que le corps fonctionne, il faut ces minéraux pour que les réactions chimiques se fassent. Et de la même façon pour les vitamines. Donc le calcium, par exemple, ça va être on connaît son rôle pour l'ossification, mais peut-être un petit peu moins celui qui va permettre la contraction musculaire et la contraction du cœur. Donc, c'est un rôle quand même assez important. On va le trouver essentiellement, donc on parle souvent des laitages, mais ça n'est pas que là qu'on le trouve. Et il faut bien penser qu'on le trouve aussi dans les légumes-feuilles, les épinards, les blettes, qui sont plutôt de saison en ce moment. On en trouve énormément dans le chou. On avait parlé de la fermentation lors d'une précédente rubrique. Quand le chou est fermenté, il se concentre en vitamine C, en calcium également. Et ce calcium, on va aussi le trouver dans les sardines, par exemple, et si on les mange entières, et dans les amandes. Donc on le retrouve finalement dans beaucoup de familles alimentaires. On peut parler aussi du magnésium, qui est un des gros minéraux du corps. Lui, il est, on va dire, on l'utilise pour plus de 300 réactions chimiques dans notre organisme. Donc, il est hyper important. Il est important pour les os, comme le calcium, mais aussi pour les muscles, pour le système nerveux, pour le métabolisme des glucides et des lipides. Enfin, voilà, celui-là, si on n'en a pas, on aurait bien du mal à fonctionner. On va le trouver dans les amandes, les produits de la mer, plein de légumes. Enfin, il est présent un petit peu partout dans notre alimentation. Donc, ce n'est pas du tout difficile de le trouver. Mais voilà, il ne faut pas l'oublier. Et puis surtout, peut-être préserver en fait, une certaine façon de cuisiner et aussi de cultiver en fait, les légumes de façon à ce que nos minéraux soient bien présents. Le phosphore, pour en citer encore un troisième, qu'on va trouver un petit peu partout aussi, qui va être important pour les os, pour l'ADN, pour la régulation du pH sanguin, etc. Ces minéraux, en fait, donc, ils sont présents dans notre organisme. On les obtient grâce à notre alimentation et à l'eau minérale qu'on peut boire ou l'eau de source. Et il faut savoir que ça circule, c'est-à-dire que ça va être éliminé par les urines, souvent. Et en fait, voilà, il faut en apporter en permanence pour que l'équilibre soit tout le temps là. Ce qui est important aussi de savoir, et c'est là qu'intervient le mode de culture et d'agriculture, c'est que plus on va avoir un produit local et de saison, plus il sera chargé de minéraux biodisponibles. Parce qu'en fait, quand on cueille à maturité un fruit ou un légume, c'est là que le minéral est biodisponible. Biodisponible, ça veut dire que l'organisme est en capacité de l'assimiler de façon évidente. Voilà.
Avant d'aller sur les vitamines, je voulais faire un petit lien avec une autre casquette que tu as, Caro, qui est celle de... une casquette par rapport à la filière farine qu'il y a sur le Cosméjean.
Oui.
Une casquette que tu es en train de délaisser, d'ailleurs. Oui. Mais, et je trouve intéressant, parce qu'on ne sait pas souvent pourquoi est-ce qu'on parle de farine T60, T80, et il y a un lien avec les minéraux.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler une minute ?
Oui, parce que en fait, donc une farine type 65, où on va comparer avec une farine type 130, par exemple, c'est une farine type 65 va être plus raffinée qu'une type 130. Et plus raffinée, ça signifie qu'en fait, on a enlevé une bonne part des fibres, c'est-à-dire le son, c'est-à-dire l'enveloppe qui entoure le grain de blé. Et on va avoir aussi enlevé le germe, qui contient beaucoup de vitamines et de minéraux, notamment. Et le son, ça contient également beaucoup de minéraux. Donc, quand on raffine trop une farine, en fait, on lui enlève une bonne partie de ses micronutriments, justement, qui sont pourtant super intéressants pour le corps.
Et concrètement, quand on parle d'une farine T110, c'est quand on brûle la farine, il reste...
Alors ça, ça s'appelle le taux de cendre. Et en fait, ce sont les minéraux qui ont été carbonisés par la chaleur. Et en fait, le type, par exemple, 130, ça veut dire qu'on a tel poids de résidus de minéraux. Et type 65, on en a moins. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça reflète en fait la quantité de minéraux qui était dans la farine de base.
Intéressant. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des vitamines ?
Alors les vitamines, on les connaît toutes aussi, je pense, les vitamines A, D, E, K et la famille des vitamines B et C. Alors pour la plupart, on ne sait pas les fabriquer, sauf deux, la vitamine D. Et la vitamine K, c'est surtout notre microbiote d'ailleurs qui le fabrique. Mais toutes les autres vitamines, il faut qu'elles soient apportées par l'alimentation. Donc on a des vitamines qui sont liposolubles, c'est-à-dire qui vont plutôt se dissoudre dans la graisse. Donc c'est la famille des vitamines A et E. Et les vitamines B et C, ce sont plutôt des vitamines qui, elles, vont être à l'aise dans l'eau. C'est important parce qu'en fait, ça nous dit quelque chose sur la façon dont on doit absorber ces vitamines et ou les préparer. C'est-à-dire que si on rince un petit peu trop ou qu'on utilise une cuisson, on va mettre beaucoup d'eau et puis qu'ensuite on va se débarrasser de l'eau. Pour les vitamines qui sont, elles, hydrosolubles, on va se débarrasser aussi des vitamines en faisant comme ça. Et de la même façon pour les minéraux. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais ça marche pareil pour les minéraux. C'est-à-dire, par exemple, si on fait cuire un riz avec beaucoup d'eau, et qu'on jette l'eau du bain après, et ben on enlève certaines vitamines et on enlève les minéraux.
Du coup, il vaut mieux cuire le riz par évaporation.
Par évaporation et...
Donc ouais. Un volume de riz pour deux volumes d'eau.
Ouais.
On va couvert et ça va absorber toute l'eau.
Oui, on va la garder.
On va la garder, on va garder aussi les vitamines.
Les minéraux.
Ouais. Les minéraux, ouais. Ouais.
Et les vitamines, mais sachant que le deuxième point qui concerne les vitamines, et c'est pour ça qu'après on fera un petit lien avec Aurélie qui nous proposera des recettes pour garder ces vitamines, c'est leur petit souci, c'est, enfin, inconvénient, c'est qu'elles sont très très sensibles à la chaleur. Donc il y en a certaines qui sont sensibles à partir de 60 degrés, comme la vitamine C. Certaines plus haut, à 110 ou à 90 degrés pour certaines vitamines B. Mais voilà, on voit par là que dès qu'on atteint 80-90 degrés, on détruit quand même une bonne partie de nos vitamines. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de très important d'avoir en tête, c'est que pour en avoir quand même un petit peu tous les jours, c'est important de manger un petit peu de cru tous les jours. Ça, on va dire que c'est un principe de base pour être sûr d'amener le minimum vital, on va dire, chaque jour. Le circuit court, ça va être important aussi parce que pour les vitamines, parce que plus en fait, on aura laissé maturer les légumes correctement dans le jardin, plus ils seront chargés de vitamines, de la même manière que pour les minéraux. Le fait que ça soit de saison, du coup, ça a aussi du sens dans ces cas-là. Et donc voilà, les modes de cuisson sont importants pour préserver au mieux nos vitamines et pour les minéraux. Je vais vous parler d'une troisième petite famille de micronutriments qui sont les phytonutriments. Alors, dans phytonutriments, il y a phyto, ça veut dire que ça vient de la plante et qu'on est complètement incapable de les produire nous-mêmes. C'est une famille qui a été longtemps oubliée, de nutriments qui commence à être très, très étudiée, mais qui a été très, très longtemps oubliée. Et puis, elle a été d'autant plus oubliée que pendant une bonne période, on est vraiment allé à fond dans l'agro-industrie. Et en fait, quand on se rend compte que l'agro-industrie oublie complètement les micronutriments dans sa façon de présenter son produit. Donc, elle nous donne, l'agro-industrie nous fournit des protéines, des glucides et des lipides. Voilà. En gros. Et il manque toutes ces familles-là. Les phytonutriments, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, on en parlera dans la prochaine séquence sur les matières grasses et les oméga-3. Ce sont des molécules en fait, qui sont en capacité d'éviter le vieillissement et d'éviter l'oxydation des molécules à l'intérieur même de notre corps. Donc ça veut dire qu'une matière grasse, elle ne doit pas trop s'oxyder parce que sinon elle devient toxique. Et quand on l'accompagne justement de ces phytonutriments, qui ont donc un pouvoir antioxydant, on va éviter que ça s'oxyde et que ça se dégrade et que ça devienne toxique. Donc ces phytonutriments, alors c'est hyper varié, il y en a des centaines, je pense qu'il y en a certainement plus d'une dizaine par végétal, donc c'est très vaste. Je peux citer par exemple... Ce dont on parle le plus souvent, c'est l'lycopène dans la tomate. La quercétine de l'oignon, ça se trouve dans l'épluchure de l'oignon. Ça a des noms un petit peu barbares. Dans le raisin, on a souvent parlé de l'exception française avec notre petit verre de vin rouge. Et en fait, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des antioxydants naturels, des phytonutriments qui sont très intéressants, mais qu'on va trouver aussi dans le jus de raisin. Pas forcément que dans le vin.
Parce qu'on parle quand même d'alimentation santé, donc on ne va pas faire la promotion de l'alcool ici.
Exactement. On parle aussi, ça se trouve souvent dans les ventes de compléments alimentaires, même si ce n'est pas trop vers ça que j'ai envie de vous orienter, mais du coenzyme Q10, mais qu'on va trouver en fait dans l'huile d'olive, par exemple, qui est très riche en plein de phytonutriments. L'huile d'olive, c'est super intéressant comme ingrédient, en fait, globalement. Et c'est pour ça aussi qu'on le retrouve souvent dans les aliments santé ou dans les régimes dont on parle pour la santé. On parle souvent du régime méditerranéen, mais ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a beaucoup d'huile d'olive, il y a beaucoup de légumes. C'est très riche en épices et en légumes. Il y a beaucoup de couleurs, en fait. Et c'est ça qu'il faut aller chercher dans notre alimentation. Voilà, en gros, tout ce qui va être très coloré, c'est intéressant. Mmh. Les fruits rouges, les légumes verts, les oranges, enfin tout ce qui est orange, tout ce qui est, voilà, tout. Dès qu'on a de la couleur, ça veut dire qu'il y a beaucoup de phytonutriments et donc c'est plutôt intéressant de l'utiliser. Mmh. Et les épices, sans oublier les épices. La chaleur ne les dégrade pas forcément. Donc ça veut dire que par exemple, le lycopène de la tomate, il est plus concentré dans le double concentré de tomate que dans la tomate fraîche. Donc c'est pas forcément la chaleur qui va être embêtante pour ces phytonutriments. Mmh. Ça dépend lesquels, je pense. Là, j'ai pas été assez loin dans mon exploration pour aujourd'hui pour vous dire lesquels, mais je pense que c'est à détailler. Je vais laisser la parole à Aurélie. Mais avant, juste, je précise que du coup, à la fin de l'émission, on mettra des petites références, justement, si ça vous intéresse d'aller voir dans quels aliments on trouve quoi, quel minéral, quel, etc. Je vous mettrai des liens sur Internet pour que vous puissiez faire vos explorations, parce que si on veut essayer de tout détailler, il nous faut 4 heures.
Merci Caroline.
Merci Caroline. Effectivement, j'ai envie de compléter sur tout ce que tu as dit, hyper intéressant. Effectivement, la chaleur a une grosse incidence sur les vitamines, les minéraux. Donc, le cru vraiment favorise de les préserver. La digestion aussi est importante et que plus on simplifie notre alimentation, moins on la diversifie sur un repas. Parce que sinon, bien sûr, une alimentation variée. Mais plus le nombre d'ingrédients est réduit, plus en fait notre corps aussi saura assimiler cette nourriture. Aujourd'hui, on a tendance à faire des salades avec beaucoup de choses. Et en fait, il faut imaginer que pour chaque ingrédient, c'est une clé spécifique du pancréas pour l'assimiler. Donc, plus on en met, et plus c'est complexe. Et donc, moins bien on va absorber ces choses puisqu'on en met trop en même temps. Donc, de privilégier une crudité et de l'agrémenter avec une aromate et de retrouver la saveur de l'aliment finalement.
Mais du coup, quand vous dites sur une salade, même sur un plat, maximum, ça serait combien? Parce que nous, en général, on est à peu près sur 5.
Je pense que...
C'est un petit 3, peu trop encore
3, 3, 3 ça, juste, ouais. Ce serait, ouais. Plus tu simplifies et...
Je parle en général de la salade ou d'un plat. Ouais.
Après, il y a des gens qui ont un organisme très, très fort et pour qui ça ne posera aucun souci. Par contre, c'est vrai que les personnes qui sont plus faibles, ça sera aidant. Et puis aussi, on peut aussi faire une trame différente, de se dire sur mon quotidien, je mange 2-3 ingrédients par repas. Et puis par contre, si le week-end, j'ai envie de me faire plaisir, repas familiaux, voilà. Il y a peut-être aussi ça, cette notion de qu'est-ce que je mets en trame de fond et où est-ce que je mets le plaisir d'avoir cette conscience-là.
Oui, le plaisir de temps en temps, c'est quand même important.
Exactement,
aussi.
Voilà.
Et d'arriver à écouter son corps et ouais. Comment chacun procède à la digestion.
C'est le plus important, écouter son corps aussi.
C'est ça, on est tellement tous différents. Dans les super aliments dont je voulais vous parler, qui sont très reminéralisants, il y a l'ortie, qui est peu chère.
Oui, il y en a plein dans le jardin.
Donc tout ce qui est plantes sauvages, le lamier pourpre, le plantain, le pissenlit, toutes ces choses en fait, qu'on a oubliées, mais en fait qui sont truffées de minéraux.
À condition de les reconnaître.
Oui.
Exactement. Parce que comme tu disais Caroline, effectivement, aujourd'hui, avec cette alimentation qui est intensive, ça aussi, ça crée une carence dans les vitamines, en fait. Juste avant même de les absorber, dans les aliments qu'on consomme, il y en a beaucoup moins qu'il y a 100 ans, en fait. Le raffinage aussi a son importance. Voilà. Tout ce qui est plus c'est transformé et plus ça les perd. Alors je reviens aussi, donc tout ce qui est super aliment, l'ortie, ah oui j'ai pensé à une recette, on peut faire de l'eau d'ortie, vous prenez une bouteille en verre, vous la remplissez d'ortie et juste vous mettez de l'eau froide, parce que c'est une vitamine qui est hydrosoluble, donc elle va facilement diffuser, donc elle va partir de la feuille pour aller dans l'eau, vous laissez ça une nuit et le lendemain matin vous enlevez les feuilles et vous pouvez boire l'eau. Et ça, moi je trouve le goût exquis. En super aliment, on a aussi les algues reminéralisants, on a les jus de légumes. Alors ça c'est vrai que c'est un peu plus coûteux, ça veut dire c'est s'équiper d'un extracteur de jus, mais là on a un concentré. Ne pas oublier dans ces cas-là de ne boire que la quantité de végétaux qu'on pourrait manger en fait. Parce que parfois, des gens peuvent boire 4 verres et en fait, ils ne seraient pas capables de manger cette quantité de végétaux. Donc toujours aussi, parce qu'on peut être tenté. Voilà, les graines germées, une explosion de vitamines, de minéraux. Donc ça, c'est très simple à préparer. vous les faites tremper une nuit dans de l'eau et le lendemain matin, vous les égouttez. Et simplement, matin et soir, vous les rincez comme ça. Donc vous remettez de l'eau, vous les égouttez et vous les laissez faire.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme graines germées ?
Alors, on a les lentilles, très simple à trouver. L'alfalfa, donc c'est la luzerne, qui, moi, je trouve délicieuse. Le fenugrec. Après, il y a d'autres graines, mais qui sont plus, on les appelle mucilagineuses, donc elles vont être gluantes, plus compliquées à faire. Donc, restez sur des choses simples. En fait, on peut aussi, je suis là que j'y pense, on peut faire germer en fait toutes les légumineuses, le pois chiche. Alors, pas les lentilles corail, parce qu'en fait, elles sont coupées. Donc, il faut pouvoir trouver la corail encore entière. Les graines germées aussi vont être plus faciles à digérer. Donc, vous pouvez sans problème ça en mettre 2 cuillères à soupe par repas. Les légumes lactofermentés dont on avait parlé lors d'une autre séance, qui amplifie aussi ses vitamines, les minéraux. Et l'eau de mer, alors ça, bon, c'est peut-être un peu plus onéreux, mais l'eau de Quinton, qu'on trouve en boutique bio, c'est très reminéralisant aussi. C'est en fait, c'est très proche de notre sérum sanguin, donc très facilement assimilable. Et les aromates, pour terminer. On n'y pense pas souvent, mais les aromates aussi sont truffés de minéraux. Et ça agrémente simplement une salade de betteraves rouges crues ou de carottes râpées. On n'a pas besoin de forcément beaucoup mélanger et on aura l'explosion des deux saveurs.
Donc, qu'est-ce que tu entends par aromates ?
C'est le basilic, le persil, la coriandre. Alors, peut-être je voulais vous parler du trempage. En fait, de tremper tout ce qui est céréales, donc, notamment quand c'est semi-complet, ça réveille en fait toute l'activité enzymatique. En fait, une graine, puisqu'on peut la conserver des années, elle se conserve et quand on la remet en terre, d'un seul coup, on a un légume qui sort. Donc c'est pareil pour notre organisme. C'est-à-dire que si on mange ces choses sans les avoir trempées, en fait, ce sera beaucoup plus compliqué pour nous d'aller chercher les vitamines et les minéraux parce qu'en fait, ils vont rester un peu emprisonnés. Donc ça s'appelle en fait l'acide phytique. Donc pour enlever cet acide phytique, on fait tremper. Donc les amandes, on les fait tremper. Moi, je fais tremper mon riz la veille au soir. Et je le cuis, j'enlève l'eau de cuisson, je la rince et je le cuis après.
Pas l'eau de cuisson, l'eau de trempage.
L'eau de trempage.
Non parce que justement, l'eau de cuisson, on en parlait juste avant.
Exactement, voilà. On le fait à la vapeur, on garde toute l'eau. Juste l'eau de trempage.
On le rince aussi, le riz souvent.
Exactement.
Pour éviter qu'il colle trop. On enlève l'amidon,
aussi,
on enlève
l'amidon. Parfait. Exactement. Voilà. Et allez, je vous partage une petite recette crue sympathique, enfin que je trouve sympathique. Ce sont des petites boulettes de légumes. Donc, on prend par exemple 3 tasses de graines de tournesol qu'on a fait tremper du coup la nuit, pour les rendre de nouveau vivantes, actives, comme on l'a dit. On mélange ça avec 4 carottes qu'on a râpées, 3 branches de céleri qu'on coupe finement. On peut rajouter de l'oignon, du curry, en aromate de la coriandre ou du persil selon les goûts. Donc là, par contre, on est à déjà 3 ingrédients différents. Donc ça, c'est plus plaisir, mais c'est aussi pour des fois éveiller le goût des gens et les inciter à leur donner envie de manger plus de cru.
Ouais.
Et on peut mettre un petit filet d'huile de citron. Et donc ça, on en fait en fait, donc on malaxe tout, on en fait des boulettes que l'on roule dans les mains et qu'on roule dans la noix de coco. Donc, ce qui fait que ça va se tenir. Et en termes de saveur, c'est sympathique. Et les gens sont souvent surpris de cette saveur voilà, qui est parfumée.
Bon. Et aussi très esthétique.
Et aussi esthétique, c'est
parce
ça.
Parce que c'est aussi un aspect important de l'alimentation, c'est...
Le visuel.
Que ce soit beau.
C'est ça.
Et voilà. Est-ce que, Valentin, tu veux nous partager... toi, une petite recette simple.
En crudité ?
Ce que
oui,
tu veux.
Oui, très bien. Je peux vous proposer une salade de betterave râpée, crue, avec des éclats de noisettes, huile d'olive, et du vinaigre de framboise, qui est très bon, qui vont très bien aussi ensemble avec la betterave. Voilà, il y a un petit peu de persil aussi qui va très bien avec. Ou sinon, vous avez carottes râpées, avec du cumin et du jus d'orange, qui vont très bien ensemble aussi. Voilà.
Donc là, c'est des explosions de vitamines, d'antioxydants et de minéraux.
Et c'est très coloré.
Ouais. Ouais. Et il faut aussi une salade de fenouil avec du pamplemousse.
Ah oui, aussi, ouais. Ça va très bien. Ouais.
Tout simplement.
Parfois, les choses les plus simples sont les meilleures.
Eh ben, merci beaucoup pour tous ces partages et recettes qui mettent en appétit. Nous nous retrouverons du coup le mois prochain pour une prochaine émission Chaud Patate avec cette fois la rubrique Jardin. Donc nous revenons dans 2 mois avec la chronique Cuisine et Santé sur la thématique des gras et notamment des oméga 3. Merci et bonne journée.
Au revoir.
À table.
Bienvenue sur Chaud Patate,
l'émission du PAT,
le projet alimentaire territorial du Sud-Lozère.
L'émission qui met en lumière
les acteurs et les actrices
de l'agriculture et de l'alimentation du territoire
sur Radio Bartas.
107 FM.
À table.
Retrouvez-nous une semaine sur deux, le mardi à 15h et le dimanche à 11h30.